Bonjour à tous, je suis très content d'être là ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de visiteurs, hein, comme tous les étés, et je ne sais pas si c'est la moitié. Est-ce que vous pouvez vous lever juste, tous ceux qui nous visitaient, pour qu'on voit un peu... Est-ce qu'on peut les accueillir, s'il vous plaît ? J'ai discuté avec une famille qui venait d'Alsace ce matin, et c'est super, tous les étés, on a le privilège d'avoir tous les vacanciers qui viennent. Et il y a aussi une puissance de pouvoir louer le Seigneur et de pouvoir partager notre foi avec des églises de tout le pays. C'est vraiment puissant. J'ai découvert ça la semaine passée. On était avec des responsables de plusieurs églises en France et on avait des temps de louange. Et je crois que c'est une des premières fois de ma vie que j'ai réalisé ce que c'était l'église avec un grand E, parce que souvent on est juste entre nous. Et c'était beau de voir comment Dieu, voilà, il est à l'œuvre dans chaque région. En tout cas, on veut vraiment vous bénir et vous souhaiter un bon été, un bon repos à Montpellier, dans la région. Et justement, ça tombe bien parce que la thématique pour cet été, c'est sur le repos. Et j'étais vraiment très touché en préparant ce message parce que bon, souvent, c'est comme ça. Hein. Souvent, quand je prépare un message, la personne qui est le plus touchée, c'est moi, en fait. Donc, cherchez pas, celui qui est le plus béni, c'est moi. Et j'ai vraiment été touché. En fait, je prépare, mais Dieu me touche en premier avant que je vous partage ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et j'ai vraiment été touché, vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Et c'est vrai que la thématique du repos, on pourrait penser, ouais, c'est les vacances, c'est le repos, c'est l'été. Et on va juste commencer par un passage dans Hébreux 4, au verset 9 et 10. Super. Je vais lire avec vous. « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi, de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Alors, dans ce verset, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs fois le mot « repos ». Voyez ? Et en fait, en français, ben, « repos », ça se dit « repos ». Voilà. Mais en vérité, en grec, il y a plusieurs fois « repos », mais ce n'est pas le même mot en fait, en grec. Il y a le repos du sabbat, donc ça, on voit bien ce que c'est, le shabbat. Donc ça, c'est le repos, on va dire, on a travaillé dans la semaine et c'est un jour de repos, comme Dieu, il a créé l'univers et puis il s'est reposé le septième jour. Donc ça, on comprend bien que c'est un repos, on va dire, ponctuel, passager. On est fatigué de tout ce qu'on a fait dans la semaine et c'est un repos soit quotidien, soit hebdomadaire, mais c'est un repos qui est ponctuel, qui ne dure pas. Par contre, les autres mots, alors je l'ai appris le mot en grec, c'est katapophsis. Alors je ne sais pas l'accent, comment ça se dit, je n'ai pas fait de grec. Et ça par contre, c'est un deuxième repos et c'est ce repos que je vais partager ce matin avec vous. Ça, c'est le repos en Dieu, c'est un repos définitif, c'est un repos, le repos qu'on aura quand on sera au ciel auprès de Dieu. On peut déjà l'avoir sur cette terre, et c'est de ce repos dont il est question dans ce verset. Vous savez, c'est un peu la même image que Jésus quand il va auprès de la Samaritaine. Il vient devant un puits, et il y a la Samaritaine qui est là, et il lui demande de puiser de l'eau pour lui. Et il a cette parole, il dit, je ne vais pas lire le verset, mais toute personne qui boit de cette eau aura soif. Et Jésus lui dit, par contre, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Parce que c'est une eau, c'est une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc là, pareil, on voit que Jésus parle d'eau, mais il y a deux différences dans l'eau. Il y a l'eau qui nous désaltère, l'eau terrestre, et puis Jésus parle d'une source d'eau qui jaillit jusque dans l'éternité. Le repos, c'est la même chose pour ce verset. Le premier repos de Shabbat, c'est le repos terrestre. Par contre, le deuxième, c'est le repos en Dieu. Et ce repos en Dieu est bien sûr beaucoup plus puissant que le repos terrestre. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Alors avant de parler de ce que c'est le repos, déjà on pourrait voir qu'est-ce que c'est l'inverse du repos. Qu'est-ce que le repos n'est pas? Alors vous allez me dire quoi? C'est quoi l'inverse du repos? Voilà, la fatigue. Alors justement la fatigue c'est bon, c'est juste, mais ça serait pour le repos de Shabbat. On est fatigué, on se repose. Mais la vérité, enfin le deuxième sens qu'on va voir aujourd'hui, c'est le repos. Le contraire du repos, alors c'est pas une définition biblique, hein, mais c'est comme ça que moi je le comprends, c'est qu'une partie sûrement de la vérité, mais le contraire du repos, on pourrait dire que c'est la peur, l'angoisse, le doute, le tremblement, l'insécurité, l'agitation, l'inquiétude. En gros, c'est la crainte. Quand on est dans la crainte, ben, on n'est pas dans le repos. Dans le repos de Dieu, eh ben, l'inverse, c'est quand on est dans la crainte. Et du coup, quand on le voit comme ça, ben, en fait, ça change tout. On pense plus juste le repos, c'est la fatigue. Et je crois qu'en fait, Dieu, notre Père, il en a juste marre que ses enfants soient épuisés. Quand il voit notre état de fatigue, des fois, il en a juste marre. Alors, pas la fatigue parce qu'on a bien travaillé, mais notre fatigue mentale, notre fatigue morale, notre fatigue dans les pensées. Et je crois que Dieu, ce matin, il veut faire une œuvre au milieu de nous. Il a commencé à le faire, pour ceux qui sont là depuis plusieurs semaines, avec toutes les prédications. Mais je crois qu'il y a un repos éternel que Dieu veut qu'on assimile le plus tôt possible dans notre vie. Et ce repos, ça change tout. Parce que, en fait, souvent, les gens, les chrétiens ou les non-chrétiens, mais on va parler des chrétiens, disent « Ah, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis... ouais, je suis vraiment, j'en ai ouf, ras-le-bol, quoi, je suis crevé. » Et nous, souvent, quand on entend ça, on se dit « Bon, ben, repose-toi, vas-y, prends 2 jours de vacances, va faire un tour en week-end dans un bel hôtel et tu te reposes. » Mais en fait, c'est pas ça que les chrétiens disent. Si on prend le sens fatigué, c'est pas seulement la fatigue physique, c'est la fatigue mentale, la fatigue de leur âme, de leur esprit. Et dans ce cas, en fait, au lieu de dire « je suis fatigué », en fait, si on traduit bien, ça veut dire en fait que je suis dans la crainte, que je suis dans la fatigue mentale, je suis dans le stress, je suis dans l'épuisement. Et ça, c'est pas biblique. Dieu est contre cette fatigue-là. Et en théorie, quand on rencontre Dieu, on ne devrait plus expérimenter cette fatigue-là. Et je crois que ce matin, Dieu va agir par rapport à ça. Et pour illustrer ce propos, je vais vous parler de quelques personnages dans la Bible qui sont un peu des extraterrestres. On a l'impression que ce n'est pas des hommes, que c'est des robots, que c'est des machines. Et quand on lit leurs histoires, on se dit « mais est-ce que vraiment je suis fait de la même nature qu'eux ?» Vous savez ? Et bon, vous les connaissez, hein, c'est des personnages très connus. Et du coup, à travers leur histoire, on peut assimiler qu'est-ce que c'est vivre pleinement dans le repos de Dieu. Alors, si on commence par David... David, il dit cette parole, alors je ne vais pas citer tout ce que David a fait, hein, mais juste, il dit une parole, il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » C'est dans le psaume 16. Et en fait, quand il dit ça, il y a un début de réponse. De comment, peut-être vous vous posez la question, « Ok, le repos, me reposer de ma fatigue, je sais faire. Je dors, je fais des distractions pour me renouveler. » Mais le repos en Dieu, comment on fait ? Et là, David nous donne une première réponse. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Donc là, on voit que David parle de sa vie d'intimité avec Dieu. Et on voit qu'en fait, Dieu ne le quitte pas, puisqu'il l'a toujours sous les yeux. Donc là, on a un début de réponse, dans l'intimité. Si on prend Paul, qui est aussi un autre extraterrestre, Paul parle de légères tribulations d'un moment produisent un poids éternel de gloire, dans 2 Corinthiens. Bon, quand Paul dit légères tribulations, pour ceux qui connaissent la vie de Paul, c'est pas des légères tribulations, mais lui, il le voit comme ça. On se dit, pourquoi il le voit comme des légères tribulations ? Et on a la suite après, il dit, dans un autre verset, « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. » Il parle encore des tribulations. « Mais cette tribulation est accompagnée avec la joie du Saint-Esprit. » Voilà, là il y a une deuxième réponse. C'est pour, on voit que pour demeurer dans la paix, dans le repos, eh bien, il y a besoin de la joie du Saint-Esprit. Donc il y a besoin du Saint-Esprit. Et on voit en fait que tous ces grands hommes et grandes femmes de la Bible, tous ceux qui, quand on les voit, on se dit « mais comment ils faisaient pour être dans le repos ?» Ben on voit un peu leur secret, c'est le fait d'être intime avec Dieu. Moi, je sais que souvent, ça m'arrive des fois, je suis pas d'un tempérament très, très excité ou très énervé ou très ronchonné, tout ça. Je l'étais avant, mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, il y a des années, je ne le suis plus trop. Mais des fois, ça m'arrive. Le matin, je me lève et puis je suis pas de bonne humeur. Ou des fois, je suis pas agréable. Même moi, je le sens. Je me dis, mais si j'étais en face de moi, je me mettrais des claques, quoi. Vous savez, côté un peu. Bon, forcément, ma femme, Marisa, elle est en face de moi, donc elle me met pas de claques. Mais disons, des fois, elle a envie. Et quand je vois comme ça que ça vient, je me dis, purée, pourquoi j'ai ça ? Et en fait, quand je cherche, je me dis, mais ça fait combien de temps que t'as pas eu un vrai cœur à cœur avec Dieu ? Et souvent, toutes les fois où ma chair, vous savez, tous mes mauvais côtés, ils ressortent encore plus, ben c'est quand je ne prends pas de temps, comme disait David, je ne prends pas de temps pour être avec mon Dieu et pour avoir constamment l'Éternel sous mes yeux. Et je ne sais pas si ça vous le fait pour vous, mais quand on n'est pas avec Dieu, ben le pire de nous, il rejaillit. Et plus on est avec Dieu, et plus le meilleur de Dieu ben, rejaillit. Et du coup, ça rejoint ce que dit David et ce que dit Paul. Et c'est un début de réponse concernant le repos. Et concernant la fatigue mentale. Et il y a une vérité, c'est que si je suis séparé de Dieu, c'est là que l'homme se fatigue, se dessèche et meurt. Je vais le redire, Quand on est séparé de Dieu, c'est là que l'homme se fatigue, se dessèche et meurt. Bon, il y a un très bon passage dans Ézéchiel qui parle, vous savez, de ce fameux verset là prophétique sur les ossements, vous savez. Et un os, c'est sec, hein, vous êtes d'accord? Un os, il n'y a rien de plus sec qu'un os. Hein. Un os, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien. Et en fait, ce verset ressemble un peu à ce que dit dans Ézéchiel, séparé de Dieu, donc dès qu'on est coupé de Dieu, et ça ne dure pas longtemps, hein, moi si je suis coupé de Dieu pendant quelques jours, le mauvais en moi ressort direct. Donc séparé de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'homme se fatigue, voilà, on parle de fatigue puisqu'on est dans la thématique du repos. Il se fatigue, mais la fatigue produit quoi? Qu'il se dessèche. Donc on devient un peu comme un os, il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien. Et ce dessèchement produit la mort. Donc bien sûr, ce n'est pas la mort physique, mais c'est au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau de notre être intérieur. Et c'est là qu'on dit, oh, je suis fatigué. Et souvent, la réponse, ce n'est pas va à la plage, va faire une grasse mat. C'est, t'en es où par rapport à Dieu? T'en es où par rapport à ton intimité avec Dieu? Je ne parle pas forcément de juste d'aller à l'église ou même de lire la Bible, mais des fois on peut lire la Bible et pas être renouvelé. On peut venir à l'église et pas être renouvelé. On peut même prier et pas être renouvelé. Mais qu'est-ce que tu vis en termes de cœur à cœur avec Dieu, avec le Saint-Esprit? Donc, pour conclure cette première partie, on peut dire que c'est quand on est tout près de Dieu qu'on peut vivre dans le repos de Dieu. On le voit bien dans l'exemple de Marthe et Marie. Il y a, je ne vais pas le lire non plus, mais dans Marthe et Marie, donc Jésus vient chez eux, et puis il y a Marthe, elle est en train de préparer la cuisine, elle est en train de faire rôtir, à manger, tout ça, elle fait le feu, et puis il y a Marie, elle fait rien, même pas elle sert l'apéro, rien. Il y a Jésus qui est là, puis juste elle l'écoute, elle est à ses pieds, elle l'écoute. Et Marthe, elle en a marre, elle dit, ouais, moi je fais tout le boulot, puis elle est avec Jésus, tranquille, et moi, voilà, j'entends rien, j'écoute rien de ce qu'il dit. Et puis elle se plaint auprès de Jésus, elle dit, Jésus, tu pourrais pas dire à Marie qu'elle vienne me donner un coup de main, parce que franchement, c'est pas cool, quoi. Et là, Jésus dit, non, écoute, ce qu'elle fait, Marie, elle a la bonne attitude. Parce que ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle écoute, elle vit un temps de cœur à cœur avec moi. Alors que toi, tu es en train de t'agiter dans la cuisine. En gros, Jésus dit, je m'en fiche, moi, de ce que tu me prépares à manger. Moi, ce que je veux, c'est un cœur à cœur avec toi. Et Marthe et Marie, souvent, on le prend comme exemple par rapport à ça. Mais même, je pense, c'est plus que ça. En France, je pense qu'un de nos plus grands problèmes, c'est l'activité. C'est l'activisme, c'est le fait que... On est débordé par l'occupation et je pense que c'est aussi un plan de l'ennemi de nous occuper comme Marthe. Pourquoi il nous occupe? Pourquoi il veut qu'on soit occupé, l'ennemi? Pourquoi il nous pousse? Allez, vas-y, bosse, vas-y, fais plein de trucs. Pourquoi? Parce qu'il s'en fiche qu'on bosse pas. Parce que pendant qu'on bosse et qu'on est occupé à notre travail, bah, du coup, on pense pas à Dieu. Du coup, on prend pas de temps pour lui, on prend moins de temps pour lui. Du coup, le diable, il est content. Parce que du coup, si on prend pas de temps avec lui, on va s'assécher. Puis du coup, si on continue à s'assécher, on va mourir spirituellement. Et je crois que c'est vraiment, Marthe et Marie, c'est vraiment l'exemple de... C'est vraiment, ça parle pour la France et pour l'Europe, mais pour la France, de se dire, est-ce que finalement, je suis pas un peu comme Marthe? Est-ce que je suis pas tout le temps à m'occuper de 10 000 trucs? Et finalement, je suis pas au pied de Jésus à vivre un temps de cœur à cœur avec lui. Et quand on voit le repos, tout le monde voudrait être en repos toute la vie, on voudrait être en vacances toute la vie, avoir l'état d'esprit de l'été, c'est cool, on est au calme, on est plus stressé ni rien. Ben, c'est possible. C'est possible, on l'a vu avec... David, on l'a vu avec Paul, c'est possible que si on vit ce temps de cœur à cœur avec Dieu régulier, si Dieu fait partie de nous, si on marche avec lui comme on peut marcher avec notre ombre, il fait partie de nous où qu'on aille. Alors maintenant, dans la deuxième partie, il y a une chose que j'ai réalisée en préparant ce message, c'est que moi je pensais que pour trouver le repos de Dieu, il fallait faire des gros efforts, vous savez. Il fallait y aller, tu sais, chercher la face de Dieu, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et j'y vais, je cherche et tout. Et bon, même si je sais que c'est pas vrai, mais des fois inconsciemment on a l'impression qu'il faut y aller, quoi. Pour chercher la présence de Dieu, il faut un peu ramer des fois. Et en fait, j'ai pris une claque, enfin ça m'a reparlé, parce qu'en fait c'est Dieu a prévu notre état de faiblesse. Dieu a prévu qu'on soit même en difficulté pour le rechercher. C'est fou, hein. C'est comme si il nous invite, hop, je t'invite par exemple, bah, viens manger à la maison, et je sais que tu vas même pas réussir à venir jusqu'à chez moi pour différentes raisons, parce que tu es occupé, parce que tu n'as pas envie, ou je ne sais quoi. Du coup, j'appelle le taxi et je dis au taxi, bah, va à l'adresse de mon ami là, puis va le chercher. Comme ça, au moins, c'est sûr qu'il va venir jusqu'à chez moi. Et bien, en fait, j'ai réalisé que Dieu, il fait ça avec nous. Nous, on a l'impression des fois qu'il faut qu'on soit consacré pour s'approcher de Dieu. Alors, c'est vrai, il y a une consécration, mais on en parlera tout à l'heure. Mais en fait, on n'a pas d'effort à fournir, c'est pas nous-mêmes qu'on a à fournir, parce que Dieu le fait déjà pour nous. Vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Dieu sait qu'on est faible. Et c'est incroyable de voir l'amour de Dieu qui, dans notre faiblesse, a prévu quoi ? Ben directement de venir, non pas nous envoyer un taxi, mais carrément il a prévu de venir habiter en nous. Quand la Bible dit que le Saint-Esprit habite en nous et qu'on est le temple du Saint-Esprit, c'est pas une image. C'est pas juste waouh, un super verset, waouh, Dieu est venu habiter en nous. C'est pas un verset, c'est la vérité. Dieu habite en nous. C'est-à-dire que pour aller rencontrer mon Dieu, je n'ai pas besoin de faire 200 km, pas besoin de courir partout, de me concentrer. Dieu, il est dans mon cœur, il est là. Il est juste là. Donc j'ai juste à fermer les yeux, j'ai juste à me concentrer sur lui, à l'inviter, à lui parler, à murmurer. Il est là. Et ça, c'est juste extraordinaire de se dire, mais en fait, j'ai aucun effort à faire. Dieu est là. Et le Saint-Esprit, il n'a pas dit, un jour, il vient, puis quand tu pêches, il part, puis quand tu es saint, il revient. Non, il a dit qu'il venait. Quoi que tu fasses, il vient. Et il reste. Parce qu'il nous aime tellement qu'il est prêt à venir habiter dans la vie d'un pécheur. Parce qu'il nous aime. Et quel Dieu ou quelle philosophie peut imaginer un truc comme ça ? C'est juste impossible, c'est juste incroyable. Dieu a tout prévu. Non seulement il nous aime, en plus il nous donne le moyen de pouvoir l'aimer encore plus facilement parce qu'il habite avec nous. Et un autre verset qui est encore puissant aussi dans Romains 8, 26. Super. De même aussi, l'Esprit... Ah, je sais pas si j'ai la même version. De même, l'Esprit aussi... nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Surtout le début du passage. L'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Alors ça, ce verset, il paraît rien. Ok, l'Esprit vient en aide dans notre faiblesse. Super, c'est un beau verset. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'ai une angoisse qui me vient d'un coup, parce qu'une situation pas prévue, quand je suis dans la maladie qui me tombe d'un coup, quand je suis victime d'un accident, quand un proche de moi souffre et que j'ai un sentiment d'être démuni, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur ? Je suis juste en train de souffrir et je peux rien faire. Et bien Dieu nous dit, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Alors souvent, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Pourtant, on est chrétiens, on appelle des amis. Ah, il ne sait pas ce qui m'arrive, il ne sait pas ce qui m'arrive. Et c'est bon. Souvent, ce qu'on fait, c'est que, pour certains, on peut prendre une substance comme le vin pour se changer les idées ou des drogues ou quoi que ce soit pour se dire c'est trop dur là, il faut que je prenne quelque chose pour oublier. Et je peux comprendre. Mais quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas compris ce verset. Parce qu'imaginons que tu es en plein doute, tu es en pleine panique, tu es épuisé parce qu'il t'est arrivé un truc affreux. Tu as juste à fermer les yeux et à dire Esprit de Dieu, viens à mon aide parce que je suis dans la faiblesse. Et qu'est-ce qu'il fait l'Esprit de Dieu ? Il ne va pas dire « Oh non, je n'ai pas le temps. » L'Esprit de Dieu, il va venir, il va faire quelque chose. On ne sait pas comment il va le faire, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il va le faire. Parce que Dieu savait qu'on aurait à vivre cette situation de doute, de panique, d'épuisement. Et du coup, il a prévu l'assistance du Saint-Esprit. Quand je ne sais pas comment louer ou que je n'ai pas envie d'adorer, des fois on n'a pas envie, on est humain. Des fois, en même temps, on est mal réveillé. Qu'est-ce que je fais ? Dieu avait prévu qu'on ait du mal à le louer, l'adorer. L'assistance du Saint-Esprit. Quand je ne sais pas écouter Dieu, on dit, il faut écouter Dieu. Alors, écouter Dieu, c'est compliqué. Hein. J'écoute, mais alors, il n'y a rien qui vient. J'écoute. Moi, je n'ai jamais entendu Dieu me parler de vive voix. Et au début, je pensais que ça se passait comme ça. Puis, des fois, je me disais, écouter Dieu, c'est compliqué. Pareil, normal, c'est compliqué. Dieu le sait. Qu'est-ce que je fais ? Dieu a déjà prévu l'assistance du Saint-Esprit. J'ai juste à demander au Saint-Esprit, parle-moi. Si j'arrive pas à trouver une solution dans un problème, j'ai beau tourner dans tous les sens, j'arrive pas. Qu'est-ce que je fais ? Dieu a déjà prévu cette situation. J'ai juste à me reposer sur le Saint-Esprit. Je vais raconter une histoire. Quand j'ai rencontré Dieu, c'était en 2002, vraiment rencontré Dieu, et j'avais commencé un travail, j'étais dans une boîte d'informatique. Bon, j'ai bossé un an et demi. Et pendant que j'étais jeune converti, et du coup, tous les jours, je me disais, qu'est-ce que j'aimerais, au lieu de travailler, pas prendre du temps pour prier, connaître Dieu, chercher dans la Bible. Le soir, je rentrais, je me disais, dès que je rentre, je vais dévorer ma Bible. Et puis je rentrais, j'étais fatigué, donc je faisais rien. Mais tous les jours, j'étais, Seigneur. Et bon, à un moment donné, j'étais jeune croyant, donc j'étais pas discipliné, machin et tout. En plus, je venais de rencontrer Marisa, donc bon, c'était pas, voilà, bref. Et à un moment donné, je sentais que je devais, après c'était moi, c'était pas obligé que ce soit tout comme ça pour tout le monde, mais je sentais que mon boulot me plaisait pas en plus. Et je sentais qu'il y avait plus pour ma vie que ce que je faisais et que j'étais un peu dans une routine. Et je sentais que je devais démissionner. Alors bon, bref, pour la petite histoire, j'avais un super boulot. Tous mes collègues de promo, personne n'avait trouvé à Montpellier. J'étais le seul à avoir tout. Bref. Quand j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont dit, mais t'es fou. Donc bref. Et du coup, j'ai dit, ok, je vais démissionner. Et puis après, bon, j'ai fait une formation biblique ici à Clé. Là, 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 là. Bon, au bout d'un an que j'ai fini ma formation biblique, moi j'ai travaillé avec, à l'époque avec Pasteur Rodrigue, on a fait des livraisons. Bon, ça c'était un petit boulot à côté. Mais après, une fois que j'ai fini ça, je me suis dit, bon, maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai plus de boulot, il faut bien que je reprenne quelque chose. Et j'avais à cœur de servir l'église. Donc j'étais devant un problème insoluble. J'ai beau le tourner dans tous les sens. Alors je veux servir Dieu, mais je veux travailler. Et ingénieur à mi-temps, ben, ça n'existe pas. Pas si vous en connaissez, ça doit exister, mais moi j'en connaissais pas et je savais que c'était pas possible que je sois dans ma boîte, dans une boîte d'ingénieur à mi-temps. Enfin, ça doit exister, mais en tout cas, j'avais pas de foi là-dedans. Puis comme ça me plaisait pas, donc je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin d'un boulot à mi-temps, mais qui me fait gagner un plein temps. C'est bien, hein, comme. Ben oui, c'est vrai, si je travaillais à mi-temps pour lui, à mi-temps pour l'église, l'église était nouveau dans la foi, ils allaient pas me payer, hein, ils allaient pas dire, ah, ce nouveau, bah tiens, on va lui donner un salaire. Bon, bref. Donc du coup j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi je suis devant une situation, je ne peux pas la résoudre. Donc j'ai dit, Seigneur, voilà le problème, il me faudrait un mi-temps pour gagner un plein temps, et le mi-temps que j'ai, bah, du coup je pourrais servir dans l'église. Et j'ai mis ça, j'ai juste dit ça, juste une prière d'un nouveau converti depuis 2 ans. Et j'ai dit, bah, et je me suis dit, bah, je ne savais pas si j'y croyais, mais je disais, bon, bah, Seigneur, voilà, je t'ai demandé. Parce que moi j'avais tout tourné dans tous les sens et ça ne marchait pas. Et bah, une semaine après, je reçois, dans un temps de prière, je reçois cours de soutien scolaire. Ça veut dire quoi, cours de soutien scolaire? Je sais ce que ça veut dire, mais je ne voyais pas trop pourquoi je recevais ça. Mais je sentais que c'était de Dieu, donc je l'ai noté. Puis bon, je passe les détails. Quelques jours après, je suis allé faire un entretien d'embauche pour une entreprise qui faisait des cours de soutien scolaire. Et quand j'ai vu l'entreprise, j'ai dit, waouh, mais c'est ça que je veux faire. Je vais monter ma boîte de soutien scolaire. Et aujourd'hui, bon, je donne des cours particuliers. Voilà, bref, c'est ça. Et je donne en gros une vingtaine d'heures et je suis payé un plein temps. Donc Dieu a pourvu et j'ai pu du coup servir dans l'église. Mais quand j'ai vu comment Dieu a fait les choses, j'ai dit, mais moi, il m'aurait fallu peut-être 20 ans et je n'aurais pas trouvé la solution. Vous savez, avec mon esprit humain, justement, j'étais dans la faiblesse, un peu comme ce verset. J'avais besoin d'aide, en fait. Hein. Ce n'était pas dramatique, mais c'était quand même important. Et bien, l'esprit a trouvé la solution. Et des fois, on se complique la vie. Vous savez, des fois, on est là, l'esprit de Dieu est là. Le Dieu tout-puissant, créateur de tout, est en nous. Et nous, on est là, puis on cherche des solutions. On appelle de l'aide aux gens, c'est bon. Hein. Alors, des fois, on essaye de trouver nos propres forces. Et en fait, à chaque fois, Dieu sait qu'on est en difficulté. Dieu sait qu'on est des êtres faibles. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Mais si on faisait un sondage, ben on le sait là, mais on ne le vit pas vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vis pas comme je devrais le vivre. Et ce que je voudrais dire dans ce point, et ce qui est important, et ce qui m'a touché quand j'ai étudié ce passage, c'est le fait de se laisser porter, assister par Dieu. Vous savez, on est tellement dans une société où il faut qu'on soit au top, où il faut qu'on soit, voilà, qu'on trouve des solutions, qu'on soit de nos propres forces, on est éduqué depuis tout petit, en disant, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu sois dans tes capacités, dans les capacités de l'homme. Et moi, j'avoue, j'ai été élevé comme ça, que du coup, c'est dur pour moi de me dire, en fait, c'est facile, quoi. J'ai besoin juste de l'assistance du Saint-Esprit. Et par contre, c'est pas facile parce qu'il faut de la foi. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, l'assistance du Saint-Esprit, c'est juste un cadeau de fou. Si les non-chrétiens savaient ce que je viens de vous raconter, tout ce qui s'est passé dans votre vie, mais ils hallucineraient, ils diraient, nous, on se casse la tête à transpirer, à chercher, à être dans la dépression des années, alors que vous avez le Saint-Esprit. Et ils seraient vraiment jaloux de dire, mais vous, vous l'avez, et des fois, vous galérez aussi, quoi. Et alors, ok, on a besoin de l'Esprit-Saint. Mais l'Esprit-Saint, le truc, c'est que c'est une personne, hein, l'Esprit-Saint. Et si on ne la connaît pas bien, on ne peut pas non plus être en intimité avec elle. C'est comme quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, qu'on ne connaît pas. Directement, bah, il faut qu'on apprenne le temps de se connaître, il faut qu'on passe du temps à boire des coups, tout ça, pour apprendre à se connaître. Et bien, le Saint-Esprit, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas s'il aime la bière, mais c'est un peu la même chose. et du coup, une des façons, alors il y a plein de façons, hein, je ne vais pas vous faire tous les points, hein, mais une des façons aussi qui m'a percuté, alors je connaissais hein, dans la théorie, vous connaissez tous, hein, si on faisait un sondage, vous le savez. Mais c'est la puissance du parler en langue. Pareil, le truc que vous savez que souvent on le met dans un tiroir, puis on le reçoit, ah tiens, le parler en langue, ah ouais tiens, bah tiens je parle en langue. Mais c'est un truc qu'on le fait quand on y pense, quoi. Mais dans les Écritures, Paul nous dit pas, c'est un détail le parler en langue. Le parler en langue, alors pour ceux qui connaissent pas, le parler en langue c'est, vous savez quand il y a eu la Pentecôte, je pense que tout le monde connaît, il y a eu la Pentecôte, et puis il y a des langues de feu qui sont descendues sur tous les disciples qui étaient réunis, et ils ont commencé à parler dans d'autres langues, alors dans des langues étrangères et dans des langues célestes, qui ne sont pas compréhensibles par des terriens. Peut-être par les anges, je ne sais pas, mais bon, pas par les terriens. Et du coup, ils ont commencé à parler, et les gens, quand ils les voyaient, ils disaient, mais ils sont ivres. C'est comme s'ils étaient ivres, parce qu'ils étaient tellement remplis de Dieu, que du coup, presque, vous savez, ils étaient comme un peu bourrés, ils titubaient comme ça, là, parce qu'ils étaient tellement remplis de Dieu. Et du coup, c'est ça qu'on appelle le parler en langue, et du coup, quand on est chrétien, ben on peut recevoir ce don, c'est un don hein, que Dieu nous donne, du parler en langue. Et moi, je sais que je l'ai reçu ben, quand j'étais jeune converti, Mais je sais que depuis que je suis converti, je ne l'ai pas utilisé comme Paul en parle. Et c'est dommage, parce que si je veux vivre cette intimité avec le Saint-Esprit, si je veux qu'à chaque fois que je suis dans la galère ou que j'ai une faiblesse, me dire « Ah, Saint-Esprit, j'ai besoin que mon esprit soit musclé. » Musclé, ça veut dire qu'il connaisse bien le Saint-Esprit et puis qu'il puisse comme ça être tout ce qui est spirituel, que, voilà, que je sois fortifié. Et le parler en langue, en fait, nous fortifie. Alors, je vais vous prendre les versets. Alors, Paul, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Souvent, quand on prie, on ne s'édifie pas. Quand je prie, que je prie pour quelque chose, j'édifie Dieu, j'édifie les autres, mais je ne m'édifie pas. Mais quand je prie en langue, je m'édifie. C'est fou, hein ? Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul, on a dit que c'était un extraterrestre. Alors, pourquoi c'est un extraterrestre ? Bah, parce qu'il est tombé comme ça un jour et Dieu a dit, voilà, t'es un extraterrestre. Non. Pourquoi il est devenu un extraterrestre ? Parce qu'il parle en langue plus que nous tous. Donc, quand j'entends ça, je me dis, purée, pourquoi des fois, moi, je laisse le Saint-Esprit dans le tiroir et je le ressors que quand j'y pense ? Le Saint-Esprit, le parler en langue, active quelque chose au niveau de l'esprit qui est puissant. Si je me dis, purée, juste parce que dans ma vie, je n'aurais pas parlé en langue autant que Paul, ben, je n'aurais pas non plus la vie, les miracles que Paul va vivre. Et c'est juste bête, parce que le parler en langue, c'est facile. Et du coup, j'ai pris une pêche en préparant ce message en me disant, mais pourquoi, Olivier, tu ne pries pas plus en langue ? Et je me souviens, j'ai fait une école avec Rodrigue, qui nous avait dit, prie en langue tous les jours. Et on dit, ouais. Et puis, bah, ça faisait quelques années. Et ben non. Mais en fait, si ça paraît rigolo comme ça, mais si on veut devenir des chrétiens fort spirituellement, si on veut devenir des chrétiens qui changent la société, si on veut devenir des chrétiens qui sont tellement remplis qu'on peut aller, on peut déborder sur les autres, on ne pourra pas le faire si on n'est pas fort spirituellement et donc si on ne parle pas en langue. Alors je continue, Paul nous dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc du coup, quand on parle en langue, forcément, bah, les gens ne comprennent pas, même nous, on ne comprend pas, mais on dit des mystères à Dieu. Des fois, quand on prie en français, ou si vous êtes étranger, vous parlez dans notre langue, vous priez dans notre langue, on est limité, on prie, puis au bout de... on ne sait plus quoi dire. Les mots sont... on n'a plus assez de mots. Là, on est limité, puis on dit, mais pourtant, mon cœur, il a encore envie de dire des choses. Mais j'ai plus les mots. Et bien, quand on prie en langue, ben, les mots, voilà, ça part. Ça y va, on ne sait même pas ce qu'on dit, on ne réfléchit plus. Notre intelligence est déconnectée. C'est notre cœur qui peut parler, et c'est notre esprit qui y va. Et du coup, c'est puissant, parce qu'on peut prier des heures et des heures. Alors qu'en français, moi, je ne peux pas prier des heures et des heures. Enfin, je peux, mais ce n'est pas tous les jours. Hein. Et Paul continue en disant, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est aussi un don, et c'est un don qui est encore plus puissant que le parler en langue. Alors, petit sondage, qui a reçu le don d'interpréter les langues ? Allez-y. Super, ouais, c'est génial. Hein ? Super. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En fait, un don, ça marche pour tous les dons, hein. Un don, on le reçoit, je reçois le don, c'est définitif, hein, c'est pour... voilà. Mais aussi, on peut recevoir le don ponctuellement, vous savez ? Par exemple, je n'ai pas le don de guérison, mais si je prie pour un malade, il peut être guéri. Donc c'est comme si je reçois une onction de guérison à travers nous, et la personne est guérie, mais ce n'est pas pour ça que j'ai reçu un don de guérison. Ben, pour le don d'interprétation des langues, c'est la même chose. Quand vous priez en langue, vous priez en langue, vous priez en langue, vous dites des mystères à Dieu, vous dites des choses, vous priez, vous ne savez même pas pourquoi vous priez, vous ne savez même pas pourquoi vous priez. Mais, même si vous n'avez pas reçu le don, alors je vous encourage à rechercher, à prier pour recevoir le don, mais même si vous n'avez pas reçu le don, Dieu le donne ponctuellement. Et des fois, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous priez en langue pendant un bon moment. Et puis, une heure après, deux heures après, une révélation. Un truc, ça tombe de nulle part. Je dis, mais ça tombe d'où, ça ? Moi, ça m'arrivait, pas très souvent, mais ça m'arrivait quelques fois, et je dis, mais ça tombe d'où ? Ah oui, mais j'avais prié une heure en langue. Ça m'arrive très rarement de prier une heure en langue. Mais une fois, je me souviens, j'essayais de prier en langue tous les jours. Moi, j'ai pas réussi à durer longtemps, mais j'avais fait quelques jours une heure, et d'un coup, j'ai une révélation. Et je me dis, elle me tombe d'où, cette révélation ? J'étais même pas en train de prier ou de lire la Bible, parce que j'avais un don d'interprétation de ce qui s'était passé, et Dieu avait fortifié mon esprit, et j'avais reçu des choses extraordinaires. Et du coup, même si on n'a pas encore le don, on peut quand même avoir des interprétations, des révélations de ce qui se passe pendant qu'on prie en langue. Alors, il y a ce verset qui dit dans Éphésiens 5, 18 « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de Jésus-Christ. » Alors ce verset, il est aussi puissant parce que là, c'est un commandement. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas une option. Dieu ne s'est pas dit, bah, tiens, j'envoie le Saint-Esprit, et puis Saint-Esprit ne s'est pas dit, j'arrive sur terre, mais en gros, c'est une option. En gros, il y a des chrétiens, ils vont bien me connaître, et puis d'autres, ils ne vont pas me connaître. Non, ce n'est pas une option. Quand il dit, soyez rempli de l'Esprit, ça veut dire, soyez rempli de l'Esprit. C'est un impératif, ce n'est pas, si vous avez envie d'être rempli de l'Esprit, c'est soyez. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi je ne le suis pas tout le temps ? Pourquoi je ne suis pas comme les premiers disciples quand ils ont été visités par la Pentecôte, par le Saint-Esprit? Ça a duré, ce n'était pas juste un jour. Et pourquoi moi, c'est des fois, mais ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas régulier. Et la recette, c'est parce qu'on a besoin de s'entretenir par des psaumes, donc par la parole de Dieu, par des hymnes et des cantiques spirituels, donc par la louange, par l'adoration, et de louer de tout notre cœur, et de remercier aussi constamment Dieu pour ce qu'il fait. Constamment. Style, je peux manger à midi, ben je le remercie, parce que je pourrais être dans la disette. Je prends une douche, je le remercie, parce que c'est beau de pouvoir prendre une douche. Pour des petites choses, je peux le remercier. Et ça, c'est vraiment une façon de développer l'esprit, en plus du parler en langue. Et du coup, quand on dit des fois, on a l'impression que c'est un devoir du bon chrétien. Alors, il faut que je fasse mes devoirs, il faut que je lise ma Bible, il faut que je prie un petit peu, j'intercède. Mais en fait, l'être humain, il est très, très religieux. Tous, on est tous très religieux. Et quand on lit ce verset, du coup, on se dit plus, tiens, il faut que je fasse mes devoirs. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais si je veux être rempli de l'esprit, j'ai besoin de pouvoir être trempé dans les psaumes, d'être trempé dans la parole de Dieu pour qu'elle puisse m'édifier. J'ai besoin de louer, d'adorer Dieu parce que dans l'adoration, il se passe quelque chose de fou. J'ai besoin de remercier Dieu. J'ai besoin de vivre de quelque chose de spirituel tout le temps. Et Dieu, en fait, il veut qu'on soit rempli, il veut qu'on soit enivré de lui, il veut qu'on soit comme du vin. Il prend l'exemple du vin dans le verset et il dit, ne soyez pas enivré de vin. Il veut qu'on soit enivré de lui. C'est pas juste un petit peu rempli, c'est enivré, c'est entièrement rempli de lui. Et même, j'irai plus loin, un chrétien n'est complet que s'il est rempli du Saint-Esprit. Ça fait mal, ça, hein ? En fait, on est des chrétiens incomplets, on est des chrétiens, on n'est pas encore atteint le stade, vous savez, comme une zone de téléchargement qui va de 0 à 100%. Eh ben, on est peut-être à, je sais pas, 30% ou 40%. Mais on s'arrête là, puis on passe de 40 à 41. Puis à la fin de notre vie, peut-être qu'on sera à 43 ou 44. Mais dans le plan de Dieu, pour qu'on soit parfaitement chrétien, il faut qu'on soit à 100%. Et pour qu'on le soit, on a besoin d'être rempli et de vivre en communion avec le Saint-Esprit. Et Dieu ne nous dit pas c'est une option, il nous dit c'est un ordre. C'est un ordre et non une option. Et même, il parle dans Hébreux. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc même Dieu parle du fait de ne pas rentrer dans le repos, donc de ne pas rentrer dans la présence de Dieu, comme de la désobéissance. Donc si tu n'es pas dans le repos, que tu es fatigué, c'est parce que tu ne vis pas assez avec Dieu, tu n'as pas assez de relations avec le Saint-Esprit, et donc tu es dans la désobéissance. Alors, en fait, tout ce que je dis là, c'est vraiment pour nous encourager, vraiment. Parce qu'en fait, Dieu, il a tout prévu, il nous sert tout sur un plateau. Et nous, des fois, on est comme des enfants gâtés, vous savez. Moi, je vois mes neveux, ils ont, quand je vais dans leur chambre, je suis halluciné, quoi. Ils ont l'impression que c'est pour une école, vous savez. Dans une chambre, je vois tous les jouets. Je me dis, c'est pour une école, ils ont une école à la maison. Non, c'est juste pour lui. Ça déborde partout. Vous savez, et du coup, lui, il ne joue jamais à ses jouets. Il en joue peut-être à un ou deux. Ben, nous, c'est un peu pareil. Dieu nous sert sur un plateau. Il nous dit, écoutez, je viens carrément habiter en vous. Et nous, vous savez, on est là. Alors, un jour, j'ai envie. Puis un jour, j'ai pas envie. Et on est un peu comme des enfants gâtés, mais à part que ça a des répercussions, parce que du coup, on ne sera jamais le chrétien que Dieu a prévu qu'on soit. On ne sera jamais la personne complète que Dieu a prévu qu'on soit. Donc, dans mes faiblesses, dans mes limites, c'est le Saint-Esprit qui me guide. Je peux, dans mes limites, chercher à droite, à gauche, chercher des amis, mais c'est Dieu qui me guide. Et quand je sais que Dieu est avec moi, franchement, je ne crains rien. Et quand je ne crains rien, du coup, je suis dans le repos. Voilà. Du coup, c'est bon, j'ai fini mon message. Oui, c'est simple, en fait. C'est simple, mais on ne le vit pas. Alors, on peut se poser la question, pourquoi on ne le vit pas? Il y a une part, parce que ces vérités, on les connaît, mais on ne les entretient pas. Quand il dit « entretenez-vous par des psaumes », parce que si j'entretiens juste le dimanche ou juste de temps en temps, ça rentre et ça ressort. Moi, j'ai souvent comparé ma vie chrétienne à un arrosoir percé. Alors, quand il est rempli à ras-bord, on ne voit pas qu'il est percé, parce que du coup, je peux arroser ou je peux, voilà. Mais si je ne l'arrose pas pendant plusieurs jours, il n'y a plus rien dedans et il n'y a plus d'eau parce qu'il est percé. La vie humaine, c'est un peu ça. Comme on n'est pas parfait, qu'on est pécheur, on est percé. Et si on ne vient pas se renouveler par des psaumes, par la louange, on ne se remplit plus et du coup, on est sec, on est fatigué, on est asséché, on est épuisé et ça nous conduit à la mort. Alors, le dernier point, avant de prendre un temps de prière, parce qu'en fait, je ne voudrais pas parler trop longtemps pour qu'on ait vraiment un temps pour exercer, parce que Dieu a vraiment un rendez-vous avec nous. Et juste pour finir, je voudrais quand même finir sur le dernier point, mais que nos cœurs soient là, en disant, qu'on peut commencer à juste fermer les yeux, à dire, Seigneur, je connais ces choses, Olivier, il ne m'apprend rien, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'il dit, mais Seigneur, je sais que ces choses, je ne les vis pas. Et je sais que je suis en sous-régime, alors que c'est vrai que tu habites en moi. Alors que je sais que j'ai le parler en langue, peut-être que vous ne l'avez pas, mais on va prier pour ça aussi. Et Seigneur, tu as tout fait en moi et je peux, Seigneur, du coup, vivre une vie extraordinaire où je suis la personne que tu veux que je sois à 100%, où je suis tellement rempli, comme comme les extraterrestres dont j'ai parlé, que du coup j'ai une répercussion non pas que sur ma vie, mais j'ai une répercussion sur ma descendance et sur tous les gens qui m'entourent. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que ces choses ne soient pas juste un message, ne soient pas juste des versets bibliques, mais que, Seigneur, ça touche notre cœur, que ça change notre vie, Seigneur, et qu'on soit rempli de toi. Et on te remercie pour ce temps encore, on va te louer dans quelques minutes, et on va, Seigneur, vraiment désirer, rechercher, à rechercher encore des choses d'en haut, des dons d'en haut, et à rechercher vraiment ta plénitude dans l'Esprit Saint que tu nous as donné. Merci, cher Saint-Esprit, d'être ici, d'être en chacun d'entre nous, et merci de nous, de ta patience, et de rester avec nous malgré notre désobéissance et notre légèreté et notre vie d'enfant gâté, Seigneur. Alors, le dernier point que je voudrais voir, c'est qu'en fait, pour avoir le repos, pour activer le repos en Dieu, ça demande d'avoir la foi en Dieu. C'est impossible d'activer et de vivre ce repos en Dieu dont on a parlé depuis le début si on n'est pas dans la foi. Alors, activer le repos de Dieu n'est possible que si j'active ma foi. Alors ça, c'est le côté un peu plus pénible, parce que malheureusement, ce repos, il ne vient que s'il y a la foi. Si j'active pas ma foi, je ne peux pas avoir le repos. Vous savez, le repos, il est là. Il est juste là. Le repos de Dieu, il est là. Il est présent. Pour que je puisse l'activer, il faut que je me dise, Seigneur, j'y crois, je veux y croire. Et du coup, tout ce que le verset qu'on a dit sur le Saint-Esprit qui est là avec nous dans notre faiblesse, on a besoin de le méditer, que ça vienne dans notre tête et d'y croire, de dire, Seigneur, j'ai du mal à y croire, mais je veux y croire et je veux le confesser. C'est ça la foi, c'est-à-dire, je vis non pas ce que je vois, mais je vis dans l'invisible. L'invisible, un verset, c'est invisible. Un verset biblique, il est écrit, il est joli, il est beau. Tant qu'il n'est pas mangé par la foi, il ne sert à rien, il est juste beau. Ah ouais, wow, super, hein. Super sagesse, super verset. Même les non-chrétiens, ils lisent la Bible, ils disent, waouh, ce livre, il est plein de sagesse. Mais ça ne leur fait rien, parce qu'ils ne le prennent pas avec de la foi. Et du coup, cette foi, sans foi, c'est compliqué d'être dans le repos de Dieu. Et on voit Jésus, l'exemple de Jésus quand il est sur la barque. Et je finirai juste avec ça. Il est sur la barque avec ses disciples. Et vous savez, il y a une tempête qui se lève et lui, il est en train de dormir. Sur son coussin, là, il est en train de dormir. Pourtant, il a vu qu'il y avait la tempête. Et ses disciples, eux, ils paniquent. Ils voient l'eau qui commence à rentrer dans la barque. Et logique, ils paniquent. Et donc, ils réveillent Jésus. Vous connaissez l'histoire. Ils demandent à Jésus, calme la tempête. Et Jésus, à la fin, il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Là, il va fort quand même, Jésus. Hein. Moi, je suis dans une barque avec Jésus ou avec n'importe qui. Et la barque, elle est en train de couler. Bah, de pas s'inquiéter. Je veux dire, voilà, je vais mourir, quoi. Donc, Jésus, excuse-moi d'être un peu inquiet de mourir, quand même. Hein. Je vais mourir, mais tu me reproches, tu me reprends parce que j'avais peur de mourir. Désolé. Mais pourquoi Jésus leur dit ça? Parce qu'ils ne sont pas dans le repos de Dieu. Les gars, ils ont quand même passé 2 ou 3 ans avec Jésus, quand même. Hein. Donc, le repos de Dieu, ils ont vu Jésus en long, en large, en travers, ils le connaissent et tout. Ils vivent avec la personne, l'envoyé de Dieu. Donc, ils ont, à dire, voilà, un peu comme David, il avait la face de Dieu auprès de lui. Eh ben non, ils sont dans la crainte. Et là, Jésus, il nous donne une leçon. Bon, c'est pas parce qu'on est chrétien, parce qu'on est disciple de Jésus ou quoi que ce soit, qu'on peut vivre dans le repos. Si je n'ai pas expérimenté la foi de me dire « mais je crains rien parce que je suis dans le repos », alors c'est mort. Et un très bon exemple, c'est Daniel. Daniel, c'est un extraterrestre, Daniel. Daniel, bon, je ne vais pas dire l'histoire, mais Daniel, à un moment donné, il obéit à Dieu. Il ne veut pas s'agenouiller devant la statue du roi très compliqué, là, je ne sais plus le nom. Et ouais, je ne vais pas le redire parce que je n'arrive pas, de toute façon. Et le roi, il dit, bah, ceux qui ne se prosternent pas, eh ben, ils vont mourir. Ils seront jetés au lion. Et lui, il aime Dieu, il est dans la tranquillité. Il dit, non, moi, j'aime Dieu. Je continue à ne pas m'agenouiller devant la statue. Donc, le roi, il apprend ça. Hop, bah, il lui dit, bah, demain ou ce soir, hop, tu vas directement dans la cage au lion. Et Daniel, il dit, OK. Et il y va, tranquille, un peu, voilà, tranquille. Je vais mourir, mais enfin, je vais mourir. Je vais affronter des lions. Et pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il savait que, le verset qu'on a lu tout à l'heure, il savait que Dieu, le Saint-Esprit était là et qu'il allait l'accompagner. Il savait qu'il pourrait passer outre cette chose visible, au niveau visible, visuel, c'est juste impossible, hein, face à un lion. Je ne sais pas qui c'est qui veut se mesurer un lion ce matin, mais il y a peu de chances qu'il réussisse sans Dieu. Et bien, lui, il était dans la paix, tranquille, et on voit l'histoire. Comme il demeure dans la paix, malgré que le lion, il est là, en fait, il a fait du lion un petit chat de compagnie, et malgré que voilà, il avait son petit chat de compagnie à côté, ben, il demeurait dans la paix et dans la joie. Et pourquoi? Parce qu'il était dans la foi. C'est pas juste parce qu'il avait lu un beau verset qui disait, le verset qu'on a lu tout à l'heure, qui disait que quand on est dans la faiblesse, le Saint-Esprit est avec nous et qu'il nous aide et qu'il est notre aide. Il n'était pas juste, ah, c'est un beau verset, ah, tiens, le beau verset, je mets dans ma poche, on ne sait jamais, ça peut me servir. Non, parce qu'il avait la foi dans ce verset, il avait la foi que Dieu était sa sécurité, même en face d'un lion. Et en fait, c'est ça qu'on a besoin. Si on veut vivre le repos, c'est simple, c'est juste de basculer, d'activer notre foi. Et être tranquille dans les circonstances négatives, catastrophiques, ça, c'est révolutionnaire. aucun homme sur la terre qui n'est pas chrétien n'est tranquille dans les épreuves de la vie. Personne. Style, t'as ton, je sais pas moi, ton frère ou ton fils qui a un accident de voiture, il est dans le coma. T'es pas dans la tranquillité, en théorie. Par contre, si tu connais Dieu, tu sais que tu prends ce verset, tu dis Seigneur, je sais que tu es avec moi, je sais que Saint-Esprit, tu reposes avec moi, je sais que tu es là. Et du coup, on peut demeurer dans la tranquillité malgré les catastrophes qui peuvent nous arriver. C'est pour ça qu'il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Et c'est pour ça qu'il nous a dit aussi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Waouh! La paix de Dieu, quand je suis dans la paix de Dieu, comme Daniel, elle surpasse toute intelligence. Qu'est-ce qu'elle disait l'intelligence de Daniel? Il disait, tu vas te faire bouffer par le lion. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la paix de Dieu qui est en lui? Tu risques rien. Et du coup, c'est un combat entre nous, de se dire, mais en fait, la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Même moi, mes visions, ma mentalité, même au milieu des loups, je ne crains rien. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Et vous savez, pour vivre dans la foi, on peut s'éduquer à vivre dans la foi. C'est possible. Alors, je vais juste finir avec ça, promis. Cette fois-ci, c'est pour de vrai. Moi, souvent, quand j'étais en voiture, je suis calme et je suis assez tranquille comme gars. Mais quand je suis dans une voiture, je suis plus le même. Enfin, j'étais plus le même. J'étais comme un lion en cage, quoi. Style, on me faisait un sale coup, ça pouvait aller jusqu'à l'insulte. Bon, bref, c'était pas très glorieux. Et ça m'énervait. Hein. Des fois, même je sortais de l'église, le gars me fait un sale coup, malgré le fait que je sortais de l'église. Voilà. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Puis Dieu m'a dit, mais en fait, toi, tu as tout pour être en paix. Tu as juste à éduquer ta façon d'être. Ok. Alors du coup, j'ai commencé. J'ai dit, chaque fois qu'on me fera un sale coup, je vais bénir la personne et je vais lui pardonner. Puis je vais me dire, bah, c'est pas grave, hein, c'est qu'il m'a juste fait, un sale coup, c'est pas très grave. Et j'ai commencé à le faire. Et maintenant, alors je dis pas que voilà, mon premier réflexe, l'abruti. D'accord. Sur le coup, quand je suis, parce qu'il me fait peur. Mais après coup, je suis pas. Enfin, sur le coup, j'ai peur. Donc des fois, ça peut m'arriver de dire un truc. Mais après, au fond de moi, je suis pas énervé. Je me dis, oh, ça va, on est en voiture, c'est cool. Il m'a rien fait, je le connais pas. Donc je vais pas m'énerver. Tout ça pour dire quoi? On peut s'éduquer pour vivre dans la foi et grâce à cette foi, être dans la joie, dans la paix. On peut l'activer par différentes façons et c'est possible, vous savez, des fois d'attirer la présence de Dieu. Peut-être il y a quand vous prenez un chant, je sais pas si ça vous arrive, mais il y a des chants. Moi, quand je prends un chant. Déjà, des fois, je suis en train de prier, puis ça décolle pas, vous savez, c'est là, et puis ça décolle pas, tu dis, ah, j'arrive pas à rencontrer Dieu. Et je me dis, ah, mais je vais mettre un chant que j'aime bien. Je mets un chant que j'aime bien, ou de suite, wouh, et l'onction, elle vient, et de suite, ça décolle, vous savez. Ça doit arriver à vous. Pareil, des fois, il y a un verset dans la Bible, ah, dès que je lis ce verset, waouh, c'est bon, je suis dans la foi directe. Des fois, ça peut être un prédicateur, vous écoutez un message sur Internet, ça, c'est bon, parce que du coup, là, vous activez votre foi. Parce que quand l'onction est sur vous, quand le Saint-Esprit est manifesté en vous, on n'est plus le même. Et du coup, même des choses qu'on pouvait pas faire avant, ça devient impossible. Voilà, donc en conclusion, on ne peut pas trouver le repos si on n'est pas dans la foi. La foi active le repos en Dieu. Je vais juste inviter l'équipe de musiciens de pouvoir revenir sur scène pour jouer un petit fond musical avant qu'on prenne encore deux chants de louanges. Et on a parlé tout à l'heure du fait qu'on a tout en Dieu, on a tout dans le Saint-Esprit. Et pour être dans le repos de Dieu, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué encore, c'est aussi l'esprit d'adoption. C'est compliqué si tu n'as pas été adopté par Dieu le Père, je parle dans ton cœur, c'est compliqué d'expérimenter le repos de Dieu. Alors, peut-être vous dites toutes, mais oui, mais moi je connais le Dieu le Père, je le connais, je prie, je sais qui m'aime, tout ça. Mais là, je ne parle pas de ça, là, je parle de l'esprit d'adoption. Vous savez, l'esprit d'adoption, c'est comme un enfant qui est adopté par des parents. Et ses parents, ils l'aiment, ils le prennent dans les bras, ils ont une complicité avec lui. C'est ça l'esprit d'adoption. C'est vraiment l'esprit d'adoption où Dieu n'est pas juste un Dieu souverain, le roi des armées, mais c'est un papa. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Abba, Père. C'est ça l'esprit d'adoption. Et peut-être certains d'entre vous, vous n'avez jamais encore reçu cet esprit d'adoption. Et pour trouver le repos, c'est compliqué sans l'esprit d'adoption. Mais Dieu, il veut vous adopter, il vous a déjà adopté, mais il veut que son esprit, votre esprit, soit adopté par son esprit réciproquement. Et peut-être certains d'entre vous, vous êtes chrétien depuis longtemps, et vous n'avez peut-être jamais vécu l'adoption du Père. Et on va prier pour ça aussi dans ce temps. Alors on peut se lever. Et on peut juste, comme je l'ai dit, juste rechercher le cœur à cœur avec le Père. Le cœur à cœur avec Dieu. Et ce chant, il parle de ça. Tu peux monter encore un peu. Sans pareil, sagesse insondable, je Est-ce qu'on peut juste tous lever les mains comme un cœur à cœur avec Dieu et chanter de tout notre cœur? Faible. Alors peut-être ce matin, je sais pas si c'est le cas, il y a peut-être des personnes qui connaissent pas vraiment Jésus, qui se sont pas encore engagées pour lui. Et là, ce chant nous parle d'un Dieu sauveur. Ce Dieu sauveur, à la fois, il est celui qui va te donner la paix, dont on a parlé ce matin, il va te donner la joie de vivre. Mais ce Dieu sauveur, il a dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus, c'est celui qui a vaincu le monde, il a vaincu la mort. Il a vaincu tes montagnes. Et il a encore dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être que tu ne connais pas Jésus, mais Jésus veut te donner du repos. Peut-être que tu es face à des situations, comme j'ai dit tout à l'heure, où tu te sens face à des montagnes, face à des situations que tu ne maîtrises pas. Et si c'est ton cas, tu peux juste prier, demander à Jésus de venir te montrer qu'il est réel, qu'il est vivant.